Voilà. Comme ça a été rappelé au début du culte, et comme tout le monde le sait, c'est aujourd'hui la fête des mères. Et apparemment, il semblerait que c'est une fête qui est finalement répandue sur une grosse partie du globe. Donc, nous sommes aujourd'hui dans cette fête et nous voulons aujourd'hui nous intéresser justement à la relation entre Jésus et sa mère. Aujourd'hui, la fête des mères, nous voulons nous intéresser à la relation entre Jésus et sa mère dans le texte que nous avons lu. Et nous allons donc relire les versets qui vont être des versets sur lesquels nous allons plus particulièrement nous arrêter ce matin, dans le même texte de Jean 19, les versets 25 à 27, où il est écrit « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. C'est un texte quand même merveilleux, magnifique. Alors, c'est un texte bien connu et en général, on s'arrête sur ce texte uniquement pour parler de l'aspect merveilleux de la croix de Jésus. On s'arrête sur ce texte pour montrer comment Jésus va aller à la croix, comment il va accepter de mourir. Et c'est vraiment le moment de ce qu'on appelle la croix de Golgotha. C'est le moment où le salut du monde va être réalisé. Rendons-nous compte que Jean 19, il faut se dire que c'est comme si toute la Bible converge vers Jean 19. Les prophéties, et on l'a vu dans le texte, tout un ensemble de prophéties de l'Ancien Testament, tout un ensemble de réalités de l'Ancien Testament, tendaient vers ce grand moment où le Messie mourrait, accepterait d'être amené comme un agneau pour le salut du monde. Jean 19, ce n'est pas un texte comme ça, c'est le moment où Jésus va réaliser le salut du monde. Et très étonnamment, dans ce grand moment, dans cette grande expérience qui va changer l'histoire de l'humanité, voilà que nous avons trois versets, qui nous parlent de comment Jésus va s'occuper de sa mère. De comment Jésus va s'occuper de sa mère. C'est la fête des mères, c'est une fête choisie par les hommes, hein, clairement, c'est un choix, et c'est un très bon choix de fêter les mamans, de fêter les papas. Mais en même temps, c'est une fête qui n'est pas anti-biblique, au contraire, parce que la Bible fête les mamans. La Bible fête les femmes, d'abord. Faisons cette première remarque. La Bible fête les femmes. La Bible respecte les femmes. La Bible honore les femmes. Peu de gens prennent conscience que la Bible n'est certainement pas un livre misogyne, au contraire. Alors on s'arrête seulement sur certaines réalités de la Bible en disant « Oh oui, mais oui, oui !» Mais premièrement, Dieu connaît ce qui est bon pour l'homme bien mieux que nous. Donc quand Dieu parle de certaines choses qui nous dérangent, bien, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et puis deuxièmement, si l'on prend toute la Bible, on se rend compte que la Bible respecte, honore les femmes. Et que la Bible respecte, honore les mamans. Voilà que Jésus, dans ce passage, alors qu'il est en train de réaliser le moment le plus important de l'humanité, va prendre soin de sa mère. Il va prendre soin de sa mère, il va prendre soin de Marie. Alors c'est vrai que pour nous protestants, on est toujours très attachés au fait de dire que Marie n'est pas la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus, l'homme, mais elle n'est pas la mère de Dieu. Nous sommes attachés à dire que Marie était vierge au moment de la naissance de Jésus, mais elle a eu d'autres enfants après. Nous sommes attachés à dire que Marie était une femme obéissante à Dieu, docile, fidèle, qu'elle était un modèle de foi, mais qu'en aucun cas elle ne peut être médiatrice entre Dieu et les hommes, et qu'il ne sert à rien de la prier, il ne sert à rien de l'adorer, il ne sert à rien de lui rendre un culte, parce que c'est une femme que Dieu a choisie pour accomplir son plan. Elle est morte, et aujourd'hui, elle est, comme tout le monde, dans le séjour des morts. Elle n'est pas auprès de Dieu pour intercéder pour nous. Elle n'a pas cette place d'intercesseuse pour nous. Pourtant, voyons que dans la Bible, Jésus donne une importance à sa mère. Et je voudrais vraiment qu'on puisse tous se rendre compte de ce qui se passe dans ce texte. Au moment où Jésus accomplit l'acte le plus important de l'humanité, il va dire à Jean, qui est le disciple que Jésus aimait, voici ta mère. Il dit à Jean, voici ta mère, et il dit à sa mère, voici ton fils. Jésus va prendre le temps, au moment de mourir, de s'occuper de l'avenir de sa mère. Il va s'occuper de confier sa mère à Jean. Il va s'occuper d'être certain que la suite de la vie de sa mère soit protégée. Il va donner une responsabilité à Jean de s'occuper de sa mère. Il va confier sa mère à Jean. Et c'est pour ça que le titre de la prédication de ce matin, c'est « Les saintes responsabilités que Jésus nous confie ». Les saintes responsabilités que Jésus nous confie. De la même façon que Jésus a confié sa mère à Jean, il nous confie des responsabilités. Il nous confie des personnes. Il nous confie des situations. Jésus nous confie certaines choses pour que nous puissions en prendre soin. Rappelez-vous que Jésus, avant de quitter la terre, avant de vivre son ascension, a passé du temps à confier des choses. On a ce texte-ci, d'accord, où Jésus confie sa mère à Jean, mais rappelez-vous dans Jean chapitre 21, dans le texte où Pierre est rétabli, vous vous souvenez de ça, où Jésus lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Occupe-toi de mes brebis. Donc Jésus, quand il a quitté la terre, n'a pas laissé tout comme ça. Il n'est pas parti en laissant tout à volo, il est parti en s'occupant de confier les choses qui restaient aux personnes qui étaient là. Il a confié sa mère à Jean, il a confié l'église à Pierre, il a confié tout un ensemble de choses aux personnes qui restaient. Jésus nous confie des responsabilités. Jésus te confie une responsabilité. Faisons une première remarque sur ce texte rapidement. C'est qu'en faisant ça, en confiant sa mère à Jean, Jésus s'inscrit dans la loi de Moïse. Loi de Moïse qui nous dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Jésus, qui est le Fils de Dieu, n'est pas là en train de faire quelque chose de totalement innovant, il n'est pas en train de faire l'original, il se soumet à la loi de Moïse comme il l'aura fait pendant toute sa vie. Il aura vécu une vie d'obéissance à la loi de Moïse et notamment aux 10 commandements. Jésus obéit à la loi. On sait que dans 2 Timothée, l'apôtre Paul dit « Attention, parce que dans les derniers temps, les hommes seront rebelles à leurs parents. Les hommes seront désobéissants à leurs parents. » Et ce texte doit d'abord nous interpeller de se dire « Ah, mais même si même mon Seigneur s'est soumis au commandement de Dieu, alors à combien plus forte raison je dois me soumettre au commandement de Dieu ?» On a vite fait aujourd'hui de balancer certains versets, de dire « Oui, bon, ça c'était pour avant. » Jésus a respecté les 10 commandements. Jésus a honoré ses parents. Jésus a respecté le jour du repos. On le sait, c'est clairement écrit dans la Bible. Alors, effectivement, il a recadré le jour du repos, mais Jésus a obéi au jour du repos. Jésus s'est abstenu de la convoitise. Jésus s'est abstenu de prendre le nom de l'Éternel en vain. Donc, Jésus était dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et rappelez-vous que dans Marc 5, il nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour que la loi disparaisse. Au contraire, il avait à cœur d'obéir au commandement de Dieu. Qui sommes-nous donc, parfois, pour nous abstenir d'obéir au commandement de Dieu? Que ce soit le commandement d'honorer notre père et notre mère, ou que ce soit d'autres commandements trouvés dans l'Écriture, nous sommes appelés à l'image de celui que nous suivons, à l'image de notre maître, à être aussi des hommes et des femmes qui obéissent au commandement de Dieu. Nous sommes appelés sur terre à être des hommes et des femmes qui, par amour pour Dieu, obéissent au commandement de Dieu. Nous savons que ces commandements ne peuvent pas nous sauver, l'obéissance à la loi ne peut pas nous sauver, mais nous savons que par amour pour Dieu, par amour pour notre Seigneur, nous sommes appelés à nous réjouir d'accomplir ces commandements comme Jésus l'a fait. C'était une remarque, une parenthèse en passant. Mais la plus grande réalité à laquelle nous devons nous arrêter, c'est qu'au moment de réaliser le salut du monde, Jésus s'occupe des choses de la terre. Étonnant! On s'attendrait à ce qu'il ne s'occupe que de ça, il est en train de sauver le monde entier. Au moment de réaliser le salut du monde, Jésus s'occupe des choses de la terre. Il va confier sa mère à un homme de confiance, à Jean, son disciple. Le disciple qu'il aime, c'est Jean, hein, toujours, même si c'est Jean qui écrit, mais donc, c'est le disciple qu'il aime. Jésus va confier sa mère et en faisant ça, il va faire preuve en réalité, et ça ne paraît pas toujours dans le texte, mais il va faire preuve d'une tendresse, d'un amour, d'une affection inouïe au moment de quitter l'humanité. Il voit sa mère qui est là. Rappelez-vous que quand Siméon arrive et qu'il voit Marie, il va lui dire à un moment donné, on ne va pas lire le texte, « Une épée te transpercera l'âme ». Siméon a dit ça à Marie. Et certainement que cette expression « une épée te transpercera l'âme » fait référence à cette situation. Alors, pour peut-être être un peu plus choc pour ceux qui peut-être ne voient pas de quoi on parle, Marie est en train de voir son fils mourir. C'est de ça qu'on parle. Pour ceux qui ont des enfants, c'est de ça qu'on parle. Marie est en train de voir son fils mourir. Une épée te transpercera l'âme. Et il n'est pas en train de mourir de façon glorieuse, il est en train de mourir dans la souffrance, dans l'humiliation. Et alors que Jésus voit sa mère qui souffre, voit sa mère qui est peinée, voit finalement ce groupe de disciples qui peinent, il va faire un geste d'une affection, il va dire à Jean, voici ta mère. En d'autres termes, prends soin d'elle. C'est ça qu'il lui dit. Prends soin d'elle, occupe-toi d'elle. Et le texte termine en disant, et le disciple l'a pris chez lui. Jean a pris la mère de Jésus chez lui sur base de ce moment. Et en cela, Jésus donc fait preuve d'une tendresse, d'un amour, mais aussi d'une compassion. Il va voir la souffrance de sa mère et il va quelque part essayer de s'occuper au mieux des choses de la terre, de la suite de sa vie. Le disciple l'a pris chez lui. Le disciple a pris soin d'elle. Nous aussi, nous sommes appelés, comme Jésus, à être des gens qui s'occupent des choses de la terre. De la même façon que Jésus, au moment le plus spirituel de l'univers, s'est occupé des choses matérielles, nous sommes aussi appelés à nous intéresser aux choses de la terre. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui ne regarde qu'au ciel et qui ne prend pas soin des choses de la terre. C'est quelqu'un qui, tout en étant attaché à la réalité spirituelle, à la réalité de la croix, est conscient des choses qu'il a à faire sur terre, est conscient des choses que Dieu lui confie sur terre, est conscient des réalités qui sont sur la terre et est conscient, finalement, des responsabilités qu'il a. Et vous savez, évidemment, que là, dans le cas précis, on pourrait tout simplement parler du fait de la responsabilité qu'on a vis-à-vis de nos familles, évidemment. Puisqu'il est écrit dans 1 Timothée 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » C'est une des paroles les plus sévères de l'apôtre Paul. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Donc le chrétien, c'est quelqu'un, oui, qui contemple Jésus sur la croix, mais qui en même temps s'occupe des choses que Dieu lui confie sur terre. Tant que nous sommes sur terre, nous devons nous occuper des choses que Dieu nous confie sur terre. Il y a un temps pour être sur terre et il y a un temps pour être au ciel. Et le temps pour être sur terre, c'est le temps de s'occuper des choses que Dieu nous confie sur terre. 1 Timothée 5, toujours dans le même verset qu'on vient de lire, donc l'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'a pas soin des membres de sa famille, c'est un infidèle, il a renié la foi. Mais avant, il dit, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Et il dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Incroyable quand même. On pourrait croire que la Bible, c'est le livre le plus spirituel du monde, la croix et l'éternité. Non, la Bible nous dit que si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ils doivent exercer envers elle leur piété et lui rendre ce qu'ils ont reçu d'eux. Les enfants sont appelés à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Et le texte termine, car cela est agréable à Dieu. Il est agréable à Dieu que les hommes, les femmes prennent soin de leur famille. Et vous savez qu'en réalité, dans ce texte-là, on parle bien de quelque chose de financier, de matériel. Ce n'est pas juste le soutien moral, bonjour, bonjour. C'est réellement le soin matériel, puisque une veuve à cette époque-là n'a pas de quoi vivre. Il s'agit réellement de prendre soin de sa mère veuve. Voilà donc que la Bible nous enseigne de nous occuper des choses de la terre selon le plan de Dieu. Dieu a un plan pour les choses de la terre et il nous appelle à nous occuper des choses qui sont sur terre selon sa volonté, selon ses commandements. Jésus reprochait aux pharisiens et aux spécialistes de la loi de prétendre qu'ils donnaient leur offrande à Dieu pour ne pas la donner à leurs parents. C'est dans Marc 7, 10 à 12, on ne va pas le lire, mais pour ceux qui prennent des notes, Marc 7, 10 à 12, où Jésus leur dit, vous dites à votre père et à votre mère, j'aurais pu t'assister avec de l'argent, mais j'ai dû l'offrir à Dieu. Bon, c'est triste, hein, ça. Hein, maman, hein, papa, je voyais bien que tu avais des besoins, mais j'ai déjà donné mon offrande à l'église, donc je ne saurais pas t'aider. Jésus a reproché ça aux pharisiens, aux spécialistes de la loi, parce qu'il considérait que c'était une priorité de s'occuper de ses parents, d'obéir aux commandements de Dieu, et qu'on ne pouvait pas s'amuser à prétendre. Vous voyez comment le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans le ciel. Et ce n'est pas quelqu'un qui prend prétexte du spirituel pour mépriser le matériel. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « je donne mon offrande à Dieu, comme ça je ne dois rien à mes parents ». C'est quelqu'un qui est conscient des réalités spirituelles, mais qui, sur terre, accomplit la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à nous occuper des choses de la terre selon le plan de Dieu. Il faut évangéliser, mais il faut aussi s'occuper de ses enfants. Il faut prier, mais il faut aussi payer ses impôts. Il faut venir à l'église, mais il faut aussi aller visiter ses parents. Il faut servir dans l'église, mais il faut aussi gérer sa maison, il faut aussi aller travailler. Il faut louer Dieu, mais il faut aussi donner son temps pour aller aider les personnes qui sont dans le besoin. Oui, Dieu nous confie des choses sur la terre et il nous appelle à être des hommes et des femmes qui s'occupent des choses de la terre. Rappelez-vous, pour terminer pour terminer ce point-ci, Matthieu 25, 31 à 40, notez pour ceux qui notent. Vous vous souvenez de ce que Jésus dit dans ce texte, où il leur dit, il parle de comment, à la fin des temps, le Fils de l'homme va revenir dans la gloire et qu'il va trier les bons et les mauvais, entre guillemets, pour faire simple. Et lorsque Jésus explique pourquoi certains vont dans ce cadre-là être sauvés, alors on sait que ce n'est pas le salut par les œuvres, mais Jésus dit ceci, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Jésus nous donne des responsabilités concrètes. Prendre soin de ceux qui ont faim, de ceux qui ont soif, de ceux qui sont étrangers, de ceux qui sont nus, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont en prison, et il nous les confie. Il nous les confie et il nous dit que chaque fois que nous prenons soin de quelqu'un sur terre, à quelqu'un qui lui appartient, eh bien c'est à lui que nous l'avons fait. Chaque fois que nous faisons ces choses, c'est à Jésus que nous le faisons. Quand quelqu'un est dans le besoin, il est le représentant de Jésus et tout acte qu'on pose envers lui, on le pose envers Jésus-Christ lui-même. Jésus nous appelle à être impliqués sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu dans tout un ensemble de situations. Ensuite, comme nous l'avons dit, ce texte nous enseigne que Jésus confie une responsabilité à ses disciples. Jésus confie sa mère à Jean. Et Jésus donne à Jean une mère aussi. C'est-à-dire que d'une part, Jésus va faire en sorte que sa mère soit prise en charge par Jean, mais en même temps, Jésus va responsabiliser Jean. Il va lui donner une responsabilité, et le texte nous dit, et il l'a pris chez elle. À nous aussi, Dieu confie certaines choses. À nous aussi, Dieu confie certaines choses. Est-ce que nous prenons bien soin des choses que Dieu nous confie ? Point d'interrogation. Est-ce que tu prends bien soin des choses que Dieu te confie ? En fait, dans la majorité du temps, Dieu ne va pas descendre lui-même sur terre pour faire certaines choses. Jésus n'a pas dit « Je vais prier le Père pour que tu ailles bien, chère mère ». Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit « quand je serai au ciel, je prierai pour toi, j'intercéderai pour toi ». Non, Jésus a confié sa mère à quelqu'un qui était là. Et la majorité du temps, quand Dieu veut prendre soin de quelqu'un, quand Dieu veut agir, il va utiliser des hommes, il va utiliser ses enfants, ses disciples. Même quand on, vous savez, quand on parle même de l'amour de Dieu, vous savez que l'amour de Dieu, en général, c'est quelque chose qui va être matérialisé par des personnes. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement quelque chose de spirituel qui va toucher notre cœur, bien sûr, mais l'amour de Dieu, va, la plupart du temps, il va nous le manifester au travers de gens, de personnes qui vont poser des actes envers nous. Nous sommes messagers de l'amour de Dieu. C'est à nous de rendre l'amour de Dieu palpable. L'amour de Dieu, dont on peut parler comme quelque chose de spirituel, devient palpable quand les disciples de Jésus prennent soin des choses que Jésus leur confie. Deux questions donc. Deux questions. Premièrement, est-ce que nous prenons bien soin des personnes et des choses que Dieu nous confie? Tiens, tiens. Est-ce que je prends bien soin des personnes et des choses que Dieu me confie? Et deuxièmement, est-ce que je suis un disciple de confiance à qui Dieu peut confier des choses? Jésus a fait confiance à Jean, il lui a confié sa mère, mais est-ce qu'à toi, est-ce qu'à moi, est-ce que Jésus peut confier des choses? Très souvent, nous sommes négligents. Donc négligents, ça veut dire qu'on nous confie quelque chose et on s'en occupe comme ça, à la 6-4-2, comme on dit. Oui, on fait comme on peut ou on oublie. Hein. C'est un petit peu, vous n'êtes pas comme ça. C'est un petit peu nous, les gens qui peuvent acheter des plantes et puis qui ne mettent jamais d'eau, vous voyez. Voilà, la plante est là. Oh, elle ne va pas bien, la plante. Ben oui, tu ne lui donnes jamais d'eau. Voilà. Erna va être fâchée. Elle qui est la défenseuse. Mais oui, mais écoute, Erna, même ici, je ne mets pas de vraies plantes parce que, bon, soit. Bon, donc, est-ce que nous sommes des gens à qui Dieu peut confier des choses? Souvent, nous sommes négligents. Donc, négligent, c'est celui qui a une plante et il ne met jamais d'eau. Et puis, on peut aussi être distrait. Distrait, ça veut dire que Dieu nous a confié quelque chose et nous sommes complètement à autre chose. On est là, Dieu nous a donné quelque chose à confier et on s'occupe d'autre chose. On est distrait ou on est dans la vibe ou on danse et on ne s'occupe pas des choses que Dieu nous confie. Très souvent aussi, nous pouvons être égoïstes. C'est-à-dire que nous pensons qu'à nous. On pense qu'à nos intérêts et du coup, les choses que Dieu nous confie, Parce que ce qu'on ne comprend pas dans le texte, c'est que quand Jésus dit à Jean, voici ta mère, mais ça a des conséquences pour Jean. Sa mère, la mère de Jésus va aller habiter chez lui. Donc si on est dans un égoïsme de dire, oh oui, mais moi j'ai pas envie, hein, cette mère-là, elle va aller dans mes armoires, elle va prendre mes biscuits. Vous voyez ? Donc on peut être égoïste. Et quand on est comme ça, Dieu ne nous confie pas certaines choses. Et c'est, ça, et c'est une interpellation pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous sommes des gens à qui Dieu peut confier des choses? Vous savez que il y a une chose que la Bible montre, c'est que même si nous sommes tous enfants de Dieu au même titre, Dieu ne va pas nous considérer tous de la même façon dans les choses de la vie. D'ailleurs, si vous prenez par exemple Moïse, dans Nombre chapitre 12, il est dit que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Il était fidèle dans toute la maison de Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que Dieu va forcément nous faire confiance. Dieu va nous faire confiance parce qu'il va voir en nous. Et ce n'est pas compliqué. Déjà, vous, en tant qu'humain, vous voyez bien qu'il y a des gens à qui vous pouvez faire confiance et d'autres pas. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Lorsqu'il a des choses à confier, il va aller regarder dans son peuple qui est fidèle, qui est appliqué aux choses. À qui je peux confier cette personne qui souffre? À qui je peux confier cette personne bizarre? À qui je peux confier cette personne dans le besoin? À qui je peux confier ce ministère, ce service? Dieu peut nous confier trois types de choses. Dieu peut nous confier des personnes, premièrement. Dieu peut nous confier, deuxièmement, des messages. Et puis, troisièmement, Dieu peut nous confier des choses, entre guillemets. Premièrement, Dieu peut nous confier des personnes. On l'a vu dans la Bible. Il y a des personnes qui nous sont confiées naturellement, d'accord? Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Il y a des gens qui te sont confiés d'office, tu n'as pas le choix. ton épouse, ton époux, tes enfants, ce sont des gens qui te sont confiés. Tu peux être certain que Jésus te les a confiés. Mais bien plus, si tu es responsable d'une église, une église, ou pasteur d'une église, les chrétiens d'une église, ou alors une personne en souffrance, que tu encourages, que tu écoutes, à qui tu donnes certaines choses. Dieu nous confie des personnes. Et vous pouvez savoir, c'est toujours comme ça. Dieu va toujours confier les personnes à quelqu'un. Et parfois, c'est simplement qu'on va rencontrer la personne et qu'on va se rendre compte que, voilà, Dieu me l'a confié, je dois m'occuper d'elle. Qui Dieu t'a-t-il confié? C'est peut-être tes grands-parents, tes parents, un voisin. Qui Dieu t'a confié? Plus largement, en 2017, ça ne nous rajeunit pas. En 2017, j'avais parlé d'un thème qui était sainteté, sainteté à l'Éternel. Vous avez oublié parce que vous n'écoutez pas de toute façon. Mais dans ce thème, j'avais expliqué que dans l'Ancien Testament, Dieu nous explique ou Dieu présente le fait qu'il y a certaines catégories de personnes desquelles il prend soin en particulier. C'est présent dans tout l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui Dieu a un soin particulier et ce sont les faibles. Ce sont les faibles. Dieu a un soin particulier pour les faibles, pour les personnes qui sont faibles, et ce sont ces personnes qu'il va confier aux soins de ceux à qui il peut faire confiance. Je cite rapidement la liste qu'on avait vue en 2017, mais juste citée. Premièrement, les veuves, les orphelins. La Bible dit « L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve ». La Bible dit aussi que Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Les veuves, les orphelins, les pauvres. Quatrièmement, les étrangers, où il est écrit « Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Cinquièmement, on avait vu les prisonniers. Hébreu 13 nous dit « Souvenez-vous des prisonniers ». Sixièmement, les opprimés, les persécutés, tous les chrétiens sur la terre qui sont persécutés et que nous soutenons, notamment au travers de dons financiers. Septièmement, les malades. Huitièmement, les endeuillés. Neuvièmement, les sourds et les aveugles, où il est écrit « Tu ne maudiras point le sourd et tu ne mettras pas un obstacle devant un aveugle. » Et dixièmement, les personnes âgées, où il est écrit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. » C'est la parole de Dieu, vous savez. Hein, aujourd'hui, on dit « Oui, il faut apprendre aux enfants à se lever dans le bus pour laisser les personnes âgées. » C'est la parole de Dieu. Dieu nous confie les personnes faibles, les personnes dans le besoin, les personnes qui ont besoin de notre aide, il nous les confie. Deuxièmement, Dieu peut nous confier un message. Des messages. Premièrement, le message que Dieu nous confie, c'est le message de l'Évangile, évidemment, qu'il confie à tous ses enfants pour qu'ils soient les partageurs, qu'ils soient les témoins de ce message. Mais deuxièmement, comme message que Dieu nous confie à tous l'Évangile, la parole de Dieu à transmettre, mais Dieu peut aussi nous confier des messages particuliers qu'il nous adresse seulement à nous. Par exemple, Dieu peut vous mettre à cœur une réalité biblique, un attribut de Dieu. Il peut déposer sur votre cœur quelque chose de particulier qu'il vous demande de partager aux autres. C'est par exemple le cas des gens qui vont beaucoup parler de l'amour de Dieu, des gens qui vont partager sur l'obéissance, des gens qui vont être dans l'encouragement des autres. C'est-à-dire que c'est comme si nous sommes tous enfants de Dieu. Mais Dieu va, un peu comme avec les dons, Dieu va ouvrir l'intelligence à l'un pour qu'il saisisse une certaine réalité, d'accord ? Une certaine réalité de la parole de Dieu ou une certaine réalité de Dieu. Et il va confier à cette personne de partager ce message-là, d'être le témoin de ce message-là. Par exemple, ça peut aussi être, Dieu peut nous confier un témoignage à partager aux autres. Nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire, Dieu a fait une grande chose dans notre vie, nous avons beaucoup souffert et puis Dieu s'est manifesté. Et Dieu peut nous confier le message de témoigner aux autres, de dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Ainsi, Dieu peut nous confier des personnes, Dieu peut nous confier des messages, mais Dieu peut aussi nous confier des choses. Dieu peut nous confier un ministère, par exemple, dans l'Église. Dieu peut nous confier des dons, les dons spirituels, les dons naturels que nous avons, et il nous les confie. Pour terminer, ce texte est merveilleux. En ce jour de la fête des mères, on veut s'arrêter sur ce texte où Jésus prend soin de sa mère. Lui, le Fils de Dieu, il va se soumettre à la loi de Moïse. Il va faire preuve de compassion, d'amour envers sa mère, en la confiant à son disciple. Arrête-toi là-dessus et pense à ce Jésus merveilleux qui s'est occupé de la petite réalité logistique de sa mère. Oui, parce qu'il est dit, le disciple a pris chez lui. Donc c'est la logistique, qu'elle soit dans une maison, qu'elle soit au bon endroit, qu'elle soit bien. Jésus va s'occuper de ça. Et peut-être qu'il faut te dire aussi que Jésus s'occupe de ça. Peut-être dans nos vies, Dieu s'occupe aussi de ces petits détails-là. Merci Jésus pour ton amour, pour ta compassion, pour ta grâce. Merci de nous montrer l'exemple de comment nous devons prendre soin des nôtres. Mais aussi, ce texte nous apprend que Dieu, que Jésus nous confie des saintes responsabilités. Pourquoi je dis saintes responsabilités ? Parce que ce ne sont pas juste des responsabilités qu'on trouve comme ça. Ce sont des responsabilités qui viennent de lui. Elles sont saintes, elles sont mises à part. C'est Dieu qui nous les donne. C'est Dieu qui nous confie quelque chose. Alors sommes-nous des personnes qui prennent soin des choses que Dieu nous a confiées ? Est-ce qu'on se rend compte de ces responsabilités saintes que Jésus nous donne ? Et puis deuxièmement, est-ce que nous sommes ces personnes de confiance à qui Jésus peut dire « Cette personne, je te la confie. Ça va changer ta vie, ça va être compliqué, mais je te la confie. » Est-ce que nous sommes de ces personnes ? Jésus te confie, Jésus nous confie des saintes responsabilités. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour comment elle nous instruit. Merci pour comment elle est riche, et comment elle nous rejoint. Merci parce que ta parole nous rejoint, Seigneur. Nous avons besoin, nous, dans notre réalité, de choses parfois concrètes, et tu nous rejoins dans nos réalités. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons te prier que tu touches les cœurs de chacun, que tu nous aides à réfléchir à cela, à comprendre ce que tu veux nous dire personnellement, Seigneur. Et aide-nous, les uns et les autres, à prendre soin des choses, des personnes et des messages que tu nous as confiés, que nous soyons des disciples à qui tu peux faire confiance. Seigneur, renouvelle notre courage, notre joie, notre volonté pour que nous puissions avoir à cœur de prendre soin de toutes ces choses que Dieu nous confie de la bonne façon, avec un cœur aimant, que nous ne soyons pas négligents, que nous ne soyons pas distraits, que nous puissions prendre soin des membres de nos familles, prendre soin des personnes qui sont dans le besoin, prendre soin des faibles, prendre soin des personnes en difficulté. Seigneur, tu manifestes ton amour au travers de nous. Aide chacun, nous t'en prions. Aide-nous et que cette parole porte beaucoup de fruits dans nos cœurs parce qu'elle vient de toi. Amen.